Alors, je voulais qu'on parle un petit peu du livre Métro 2033. Peut-être déjà la genèse du livre, comment est née l'idée, comment il est né?
Donc déjà, à la base, Métro 2033, c'est une histoire plutôt personnelle qui raconte, l'histoire d'un jeune homme qui a une vingtaine, 22 ou 23 ans. Et l'histoire est basée dans un monde post-nucléaire, merci beaucoup, dévasté par une guerre atomique dont on ne se rappelle pas beaucoup, au moins mon héros ne se rappelle pas des sources, des origines, des préhistoires. Et donc la guerre a dévasté le monde entier. La surface est toujours contaminée par la radiation et n'est pas habitable. Donc les gens qui ont survécu, c'était les gens qui sont cachés dans les bunkers partout dans le monde, mais on ne sait pas beaucoup s'il y a d'autres pays qui ont survécu aussi. Mais surtout dans le métro moscovite, qui a été vraiment, et c'est pas si des science-fiction, conçu et construit comme le refuge nucléaire le plus grand au monde. Donc la guerre qui se passe dans les années à venir, dans les prochaines années, 20 ans après, le héros et toute l'humanité réduite et le monde réduit à l'échelle de métro, et les stations transformées petits états, quasi-états, chacun ayant sa religion, son idéologie. Il y a des nazis, des communistes, il y a des fanatiques religieux, tout sort de gens. Donc mon héros, avec l'humanité qui confronte une nouvelle menace inexplicable, il doit traverser le métro, faire connaissance avec tous les états, toutes les formes de gouvernement, toutes les idéologies, et résoudre le problème. C'est sa mission. Au début, il doit prévenir des gens qui sont responsables pour l'ordre dans le métro de cette menace, mais après, il devrait résoudre le problème lui-même. Donc forcément, c'est une histoire très personnelle, parce que moi, je prenais le métro chaque jour, au moins 2 heures, je passais là-bas, à partir de l'âge de 10 ans, plus ou moins, quand je commençais, quand je devais déjà, parce qu'au début, j'habitais près de mon école, qui est située centre-ville. Après, mes parents ont déménagé, donc je devais, si je voulais rester dans la même école, et je le voulais bien, je devrais faire métro chaque jour. Donc 1 heure pour partir de chez moi et venir à l'école, et 1 heure pour retourner. Donc 2 heures par jour, ce que, au bout de 6 ans, 7 ans que je faisais, nous rend 3500 plus ou moins heures passées dans le métro. C'est plus ou moins 5 mois sans sortir. Et c'était vachement assez de temps pour penser à toutes les choses. Un jour, j'ai découvert que le métro moscovite, à son tour, il est le refuge, il est une construction, objet d'infrastructure semblablement civile, mais en fait, avec à double destination, je dirais, et qui devrait être utilisé dans le cas de la guerre atomique. Chaque station est équipée par les barrières hermétiques, par les portes hermétiques. Et la profondeur sur laquelle les stations sont construites est expliqué précisément par le fait que c'était conçu comme des petits bunkers. Ils sont interconnectés, bien sûr. Après, j'ai découvert qu'il y a un autre métro caché des yeux des moscovites ordinaires. Ça s'appelle Métro 2. C'est le titre inofficiel. Officiellement, ça s'appelle Objet D6. Donc, Objet D6, c'est un autre métro parallèle situé à côté, des fois, des stations civiles, et qui en fait sert comme un lien entre les objets gouvernementaux. Donc il y a une station sous le Kremlin, il y a une station sous la maison de gouvernement, une station sous le ministère de la Défense, etc. Sous le KGB, bien sûr, sous l'université de Moscou, les académies. Donc c'était construit pour sauver les élites, dans le cas d'une attaque nucléaire. Donc ils devraient descendre, se cacher là-bas, survivre l'attaque. Et après, il y avait même des tunnels. Il y a des gens qui explorent le souterrain en moscovite. Ils disent qu'il y a des tunnels qui mènent jusqu'au Oural, même vont plus loin à la Sibérie. Ça ne me semble pas très fantastique. C'est moins fantastique que penser que si on me dit, par exemple, que nous, on a les Soviets ou les Américains ont eu depuis toujours une base à la Lune ou au Mars, sur le Mars, ça serait étonnant. Si on me dit que les nazis sont toujours sur le cul dans l'Antarctide, c'est étonnant. Mais là, il n'y a rien de très fantastique dans le fait qu'après avoir construit un énorme réseau souterrain, on a construit encore un petit truc pour le gouvernement. Ou qu'on a pu construire un très long tunnel qui sert de lien entre la capitale et les montagnes d'Oural, par exemple, que ça puisse aider à évacuer le gouvernement, les leaders du pays, dans le cas d'une guerre. On s'est préparé vachement, d'une façon vachement sérieuse à la guerre, donc on pensait qu'on puisse être occupé, ça devrait servir pour la résistance, ou pour évacuer donc, le gouvernement. Et puis, donc voilà, j'ai découvert tout ça, pas à pas, j'étais complètement passionné, et en plus, j'étais beaucoup influencé. Même ma passion pour le post-nucléaire, ça provient pas des bouquins, ça provient pas un peu, ça provient de Mad Max, de la franchise cinématique, mais beaucoup plus, ça vient de mon amour au jeu vidéo Fallout, que j'ai beaucoup joué à l'époque, j'avais 13 ans, 14 ans, c'est quand même 3-4 ans que je le jouais. Et c'était passionnant. Donc le talent des créateurs de Fallout, le premier et le deuxième, je sais pas, j'ai eu le troisième, ça impressionne et ça donne, il te permet de vivre là-bas. Il te donne vraiment la passion pour ce monde dévasté. On construit, on utilise des débris pour construire une nouvelle civilisation, mais c'est pas très convaincant quoi. Donc voilà, j'ai pensé, si Fallout rencontre le métro moscovite, qu'est-ce qui arrive? C'était ça le concept. Après, il y avait bien sûr d'autres idées, mais le début de l'histoire, c'est ça.
Comment est-ce que vous voyez le héros? Comment est-ce que vous le décririez?
Le héros, c'était plus ou moins... j'ai commencé à écrire quand j'avais l'âge de 17 ans. J'ai eu l'idée quand j'avais 15 ans, 16 ans. Je commençais à écrire quand j'avais 17 ans. J'écrivais jusqu'à l'âge de 22 ans, c'est la première fois quand j'ai publié le truc sur internet, je vais raconter encore un peu plus tard. Donc je me décrivais moi-même plus ou moins. J'étais jeune, j'avais 20 ans et mon héros avait, selon le livre, il a 24 ans, mais en fait c'est juste pour lui permettre d'être né sur la surface. En fait psychologiquement il est quelqu'un de 16 ans à 20 ans quoi. C'est ça son âge. J'ai juste me décrivais dans les circonstances. Donc c'est pas un héros, c'est pas Bruce Willis, c'est pas des super héros américains. Il n'est pas très brutal. La seule fois qu'il tire un autre être humain, c'est il tire un officier nazi qui est en train de torturer un vieux homme. Donc c'est forcément, je pense que c'est quelqu'un de très normal, jeune, assez naïf, qui est en train de découvrir le comme j'ai dit, à l'échelle un peu caricaturistique de métro, et qui apprend des choses, hein, qui essaie de comprendre est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui mérite vraiment d'être cru d'une façon complète et sincère. C'est plus ou moins, c'était moi. Des fois, on me demande si en film, qu'est-ce que je veux que je joue le rôle de Artyom. Moi, j'aimerais penser à ça parce que depuis toujours, je regardais, quand j'écrivais le roman, je regardais toujours le monde par les yeux d'Artyom. Donc, je me posais pas la question, il a l'air de quoi, il a quels cheveux, il a quelle taille. Je me posais pas. Donc, plus ou moins, c'est moi, il y a 10 ans. Quoi.
Comment vous avez constitué ce monde en miniature avec ses petites communautés? Il y a eu beaucoup de documentation. Vous avez imaginé le monde avant l'histoire ou c'est venu au fur et à mesure un peu du récit?
C'est venu au fur et à mesure. Et oui, en fait, j'ai eu l'idée. Après, je me suis imaginé une scène. C'est le tunnel. Les tunnels de métro de Moscou sont assez grands. C'est 6 mètres en diamètre. C'est noir parce qu'il n'y a pas d'électricité, il y a 20 ans. Donc, il y a un petit feu. Et c'est la garde de... pas la garde de nuit, mais la garde de la station. C'est une centaine de mètres dans le tunnel, 200 mètres dans le tunnel. Et les tunnels sont habités par les monstres, par l'obscurité. on sait jamais ce qui se passe là-bas. Et on parle pas seulement des rats mutés, mais d'autres créatures inconnues et très dangereuses. Donc voilà, il y a 2-3 gens qui sont rassemblés autour d'un feu, armés de vieux Kalachnikov, qui boivent du thé qui en fait pas qui n'est pas en thé, mais en boisson préparée des champignons, parce que les champignons et le porc, c'est les seules choses qui peuvent en fait grandir sans la lumière. Et voilà, qui ont peur, qui se racontent des histoires effrayantes. Et derrière leur dos, c'est la station, avec une centaine, deux centaines des habitants, qui ont vraiment peur aussi, et c'est les seuls défendeurs. Et la station, c'est un petit citadelle de civilisation, petit citadelle de la culture humaine. Et c'est la station la plus, on dirait, distante du centre de métro. Donc c'était ça l'image. Je commençais à écrire, et puis ça m'a emporté, quoi. Ça m'a emporté, et c'est un bouquin, même en français, c'est un bouquin de plus de 600 pages. Et en italien, c'est plus proche à 800 pages. Je sais pas pourquoi. Mais donc, et en fait, la chose intéressante, c'est que moi, je découvrais ce monde ensemble avec mon héros. Pas à pas, il devait être jeune, parce que je voulais faire le lecteur aussi découvrir ce monde-là. Donc, nous avons découvert ce monde ensemble.
Ouais, on peut dire que vous avez presque grandi avec lui quelque part.
Mais beaucoup. Parce que j'ai commencé, comme j'ai dit, à écrire quand j'avais 17 ans. La première version a été complète quand j'avais 22. Et la première version publiée, qui a été publiée quand je venais de terminer le texte, déjà deux fois plus grand que la première version, c'était quand j'avais 24 ou 25 ans. Donc, oui, c'est quand même toute une époque. C'est pas un bouquin qu'on écrit comme, je sais pas, Gavalda ou d'autres filles dans 2-3 mois. C'était quand même une époque de ma vie.
Quel regard ? Oui.
Juste une question, c'est en fait c'est ce livre qui vous a amené à l'écriture en fait ?
Ça dépend. Bon, donc mon père est journaliste. Depuis toujours, on a eu une machine à taper chez nous. Donc à l'époque, quand j'étais tout petit, j'avais 2-3 ans, il traduisait la poésie serbe, la langue russe. Et donc, qui est assez rare quand je le voyais, parce qu'il était du matin jusqu'au soir, était au travail. En plus, il faisait journaliste, donc il tapait quelque chose. C'était un modèle pour moi. Et donc, quand il n'était pas là, la machine à taper est très vite devenue mon jouet préféré. Et donc je commençais à taper avant que j'ai commencé à lire ou écrire. Je commençais à lire quand j'avais 2 ans, 7 mois, quelque chose. Et j'ai commencé à écrire bientôt après. Et des premières histoires sur les ours en peluche, c'était quand j'avais 3 ans et demi, quoi. Et après, ça s'est devenu des histoires, des romans policiers, pendant 6 à 7 lignes. Ouais, après, c'était les romans fantastiques pendant mes années écolières. Et après, voilà, donc c'est passé. Ben, je continuais à écrire de science-fiction, parce que science-fiction, c'était ma passion pendant mon école. Surtout les frères Strugatsky, qui sont les titans vraiment de la fantastique, du fantastique et de la science-fiction russe. Mais aussi les gens comme Clifford Samak, Ray Bradbury. Ben, aussi, je lisais un peu de n'importe quoi, comme Gary Harrison, Harry Harrison, qui maintenant, étant adulte, c'est pas possible de lire, quoi. C'est n'importe quoi, vraiment. Mais quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est bon. C'est bon, ouais. Mais c'est rien de rien, quoi. Ça ne raconte aucune histoire, il n'y a pas de morale, il n'y a rien, quoi. Juste un sujet. Donc, mais maintenant, toujours, j'ai beaucoup de passion. Et beaucoup de respect envers des gens comme Stanislav Lem, ou comme Ray Bradbury, ou comme Clifford Samak, qui en fait utilisent la forme du fantastique comme métaphore pour raconter les histoires qui signifient quelque chose. Donc voilà. Et donc j'écrivais aussi de la science-fiction à l'école. C'était quelque chose sur notre planète, exploration, etc. Et d'une façon très harmonieuse, c'est devenu le premier roman que je commençais vraiment à écrire à l'âge de 16 ans, 17 ans. Voilà, donc j'arrêtais jamais en fait. Mais c'était vraiment mon premier bouquin le vrai. Et c'est pas beaucoup, beaucoup édité, en fait, parce que c'est presque le même bouquin qui a été... Bah, le début, c'est son des lignes que j'écrivais à l'âge de 17 ans. Et j'ai décidé de ne pas refaire, quoi. Parce que j'ai dit, bon, c'est ma personnalité. À l'époque, je ne pouvais pas écrire comme j'écris maintenant. Il ne faut pas faire semblant que... J'étais déjà à l'époque, j'étais... Oh, j'avais beaucoup plus de savoir-faire, quoi. Et j'écrivais comment j'écrivais, et voilà, hop. Mais comme ça, on peut suivre, voir si je me développe, si je vais quelque part. Ouais, parce que de 34, par exemple, c'est un bouquin complètement différent, quoi. C'est un livre autre genre, autre langue, autre personnage, etc. Voilà, donc... c'était très harmonique. Depuis, j'ai écrit deux autres bouquins. Le quatrième sort dans 2 semaines en Russie. Ils sont tous différents. Ça dépend, en fait, parce que 33, c'est plutôt... Ouais, fantastique comme métaphore, quoi. Je pense pas... Et formellement, c'est pas de science-fiction, parce que c'est plutôt... une conte magique que de la science-fiction. Et à mon avis, j'étais toujours... Hein, je dirais pas que les fantastes russes, ils m'aiment beaucoup, quoi, parce que déjà, ça vend trop pour science-fiction. Et après, ils disent, ouais, mais c'est pas possible que les mutations arrivent tellement vite, c'est 20 ans après une guerre atomique, mais c'est n'importe quoi. Mais moi, je le sais, parce que moi, je suis aussi en correspondant. Je suis allé à Tchernobyl, par exemple, 2 fois. J'ai fait des sujets, des reportages de là-bas. Je sais que oui, la nature, elle n'est pas, c'est pas transformée après une catastrophe, une des plus terribles catastrophes, salle nucléaire. Et Nagasaki, ils vont bien aussi, bon, maintenant. Après que tous les contaminés sont morts, maintenant ils vont bien. Il n'y a pas de mutants, quoi. Mais pour moi, c'était toujours juste une admission fantastique qui me permet de imaginer. Donc c'est pas de science-fiction parce que c'est pas de science. À mon avis, c'est plutôt, comment dire, une admission qui nous permet maintenant, à notre époque, avec notre connaissance, croire de nouveau à un monde qui a des dragons, parce que les mutants sont des dragons, et après des chevaliers, quoi qu'ils sont, pas avec des piques, je sais pas, et des épées, ils sont pas avec des piques et des épées, ils sont en Kevlar et avec des Kalachnikovs, mais c'est toujours le même conflit, quoi. C'est en héros contre un dragon, quoi, contre un monstre. Et voilà, donc pour les gens qui ne sont pas prêts à croire à Tolkien, il y a un autre genre qui raconte des mêmes histoires, en fait, mais plus moderne, quoi, plus post-moderne même. Donc... C'était ça l'idée. Donc je ne pense, c'est ça votre question. Les autres bouquins sont pas très fantastiques non plus. Le 34, c'est plutôt un roman, je dirais, noir, mais pas un roman policier noir, un roman noir de l'atmosphère, quoi, de héros qui combat ses propres démons, un truc plutôt plus obscur. C'est quand même un blockbuster. Un truc best-seller, quoi. Et l'autre, il est beaucoup plus lent, beaucoup plus noir, et l'atmosphère est différente, aussi le genre est différent. Et le troisième bouquin, qui s'appelle En anglais, It's Getting Dark, en français, au début, en russe, ça s'appelait Twilight. En russe, ouais. Comment on dit Twilight en français d'ailleurs ? Crépuscule. Voilà, c'était Crépuscule. Mais Stéphanie Meyer m'a pris le nom, mais le titre, je connaissais pas, je connaissais pas même qu'elle existait avant que ça n'arrive en Russie, 1 an et demi après que mon livre soit publié. Ça arrive, elle m'a donné beaucoup de publicité gratuite, hein, parce que tout le monde pensait que c'est ça, c'est Crépuscule de Stéphanie Meyer. Bon, merci Stéphanie, mais tu m'as gâché le nom, quoi, aussi. Donc si tu lis Actu SF, donc voilà. Mais c'est un livre plutôt un thriller mystique qui a une explication, après pas science-fiction du tout, quoi. Voilà. Et le bouquin que je vais sortir, c'est des histoires formellement aussi de science-fiction, mais plutôt fantasmagoriques, qui parlent en même temps des problèmes très actuels de la Russie contemporaine. C'est par exemple, nous on est en train d'introduire un système de vote national électronique, Donc il y a un récit sur l'intellect artificiel qui se réveille dans ce système. C'est un peu de Skynet, de Terminator, mais c'est un truc, c'est satirique, quoi. C'est quelqu'un, un gouverneur de Provence, qui ne gagne pas les élections, malgré le fait qu'elle a payé à Moscou pour gagner, au sein pays au centre, donc il pense qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé là-bas, parce qu'il n'y a pas d'autre explication, quoi. Parce que les élections libres, ça n'existe pas, et donc, normalement, elle a payé à l'administration du président pour gagner ses élections. Pourquoi elle ne gagne pas? C'est parce que, évidemment, il y a quelque chose qui s'est réveillé dans le système, parce que son petit-fils est en train de regarder le Terminator, donc elle dit « Ah putain, c'est ça d'être ça ». Le système s'est réveillé. Ouais, et puis il y a une autre histoire sur un géologiste qui découvre la porte aux enfers. On est en train de faire une mine, donc il découvre aussi une porte à l'enfer. Il revient à Moscou, il dit on a fait une grande découverte, moitié de son équipe sont déjà complètement rangés par des monstres. Il dit non, on a découvert, personne ne le croit. Il dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas. L'Académie des sciences siffle, il dit oh bâtard, etc. Donc il y a une seule personne qui reste, qui écoute. Et à la fin, quand tout le monde sont partis, complètement en rage par les bêtises qu'ils racontent, la personne en vêture noire dit oui, je sais que vous avez raison en fait. C'est vrai ce que vous dites. Il dit ouais, vous me croyez, ouais, je vous crois. Est-ce qu'on peut enregistrer cette découverte importante? Il dit non, parce qu'elle était déjà faite avant. Il dit oui, vraiment, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on fait pas une croisade? Crusade. Donc il dit ouais, parce que c'est pas l'époque. Il faut pas faire la lutte, il faut faire de commerce. Dit, vous parlez de quoi? Vous êtes qui? Dit, moi je suis le représentant de Gazprom. Et nous on a un contrat direct avec l'enfer pour le gaz naturel. Parce qu'à l'époque c'était l'or. Mais maintenant, ils sont très contemporains là-bas. Donc, ils essaient de vendre les choses qui ont de valeur dans le monde contemporain. C'est le gaz. Nous avons vendu l'âme éternelle. Dit non, c'est Gazprom, c'est une compagnie d'État. Donc, le gouvernement de la Russie a dû prendre des obligations. Par exemple, la Corée du Nord ou l'Iran. Ça, on agit en représentant les intérêts de nos partenaires. Des choses comme ça, il y a 16 histoires de ce genre. Et ça raconte plutôt de l'actualité russe, quoi. Et c'est très satirique. Donc, je vais le sortir dans 2 semaines, et après, on va voir qu'est-ce qui se passe.
Et en ce moment, vous êtes en train de travailler sur quoi? D'écrire quoi?
Donc, voilà, je viens de terminer ce bouquin. En ce moment-là, et je viens de lancer, en fait, une série de romans. J'ai ouvert ce que j'ai pensé à faire. J'ai inventé. C'est ouvrir mon monde, mon univers, aux autres auteurs. Donc, ce que je fais, j'ai invité d'autres auteurs pour me joindre en exploration du monde de Métro 2033. Donc, c'est le monde détruit par une guerre atomique. Les gens ont survécu là, par ici, par là-bas, mais dans des quantités très réduites. Et voilà, dès le début de cette année, en Russie, on a déjà publié 3 bouquins comme ça. On raconte l'histoire de Moscou et c'est toujours les histoires qui sont consistantes, conjuguées les unes avec les autres. Donc il y a un roman dans lequel il s'agit de Moscou, une autre histoire d'un autre héros dans le même métro. Il y a un roman qui décrit l'histoire d'une personne qui trouve un vieux avion et fait le vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Il y a le troisième roman qui parle de Saint-Pétersbourg. Et l'idée, c'est d'écrire des autres villes, y compris Kiev, la capitale de l'Ukraine, et puis d'autres villes, peut-être l'Oural, en Sibérie. Et après, ou peut-être même maintenant, d'inviter des auteurs étrangers pour décrire l'univers de l'autre côté de l'océan, des villes européennes. Et donc voilà, je m'adresse aux lecteurs d'ActuSF, qui sont, je pense, il y a beaucoup des écrivains, parce qu'en science-fiction, les écrivains souvent sont les mêmes personnes, pour décrire le Paris après une guerre nucléaire, ou Nantes, ou même Saint-Malo, quoi. Je pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester après Saint-Malo. Mais si on, si on s'imagine la Forêt nationale entourée par des monstres, ou comme le dernier vestige de la civilisation en France, c'est vachement intéressant. Ou la Tour Eiffel, est-ce qu'elle tombe pas toute rouillée après des tribus primitives qui s'installent. Donc l'ambition, donc, c'est de créer vraiment un grand projet international. Où les auteurs différents, les Allemands vont décrire Berlin, les Italiens Venise après une guerre atomique, ça doit être incroyable, ou Rome, la ville éternelle, les Japonais Tokyo, si Tokyo c'est pas mal, j'ai parlé de Tokyo qui est coulé, parce que les Chinois ont... Enfin, mais peut-être c'est pas vrai, hein. Peut-être c'est des rumeurs, hein. Peut-être les Japonais ont survécu aussi, il y en a. Donc, et de le transformer en le premier projet international, publier des livres français en Russie, publier des livres russes en France, voilà, créer en réseau en fait, post-nucléaire, et c'est vachement intéressant. Chez nous, ça marche très bien, les bouquins en sortent avec des tirages de 70 000, 80 000 par mois. Donc, et ça serait très, très intéressant de, en fait, essayer de faire une extension de ça aussi en Europe. Et donc là, on discute déjà avec des partenaires allemands, italiens et bulgares, par exemple, pour le faire. Et la même chose avec la France, je pense que ça doit aller. Quoi. Ouais, je n'attends pas que ça devienne un best-seller national. Mais comme expériment, c'est très intéressant. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'au présent, c'était des franchises littéraires basées sur des séries, des films américains écrits par des mercenaires américains. Et puis traduits dans tout le monde. Et là, on veut créer un expériment vraiment international où les auteurs des pays différents coopèrent pour créer un monde consistant. Ça n'a jamais été fait. Et je pense que c'est très intéressant à faire.
Peut-être un dernier mot sur le jeu vidéo qui va sortir, si je dis pas de bêtises, qui vient de sortir, qui est sorti en mars. Pardon. Comment est-ce que vous avez travaillé dessus? Comment ça s'est fait cette histoire?
Donc l'histoire de Métro 2033, c'est l'histoire surtout de publication gratuite en ligne. 2 ans avant que mon bouquin soit publié par un éditeur. Les créateurs du jeu m'ont trouvé parce que j'ai décidé de me publier moi-même sur le site que je crée. Et donc, ils m'ont trouvé. C'était l'équipe créatrice de Stalker, un autre jeu est-européen connu. Et j'ai vu qu'ils sont ils ont beaucoup de talent. Ils ont beaucoup de sensibilité pour l'atmosphère post-apocalyptique. Je savais que ce sont les gens à qui je peux faire confiance. Et c'est là, c'est sur ce site qu'ils m'ont découvert. J'ai vu qu'ils sont très talentueux, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de sensibilité. Ce sont des gens qui vont faire un bon produit. Déjà avant, j'ai rejeté d'autres propositions d'autres créateurs de jeux. Parce que je comprenais, je pensais que non, ils vont faire une merde complète de mon roman. Je veux pas. Mais là, c'était des gens qui, ouais, qui vont faire ce qu'il faut. Et ça a pris encore 2-3 ans, 4 ans pour qu'ils complètent le Stalker, parce que c'est un très long projet. Et après, ils ont commencé, ils se sont mis au travail et commencé à faire un jeu basé sur Metro. C'est très bien, j'ai participé. Déjà, ils ont basé le sujet du jeu d'une façon assez précise, exacte, sur le sujet du bouquin. Mais c'est clair qu'ils ont coupé toutes les branches de sujet qui n'avaient rien à faire avec la ligne principale. Mais c'est pas grave parce qu'on peut les utiliser dans le sequel, dans la continuation du jeu. Et la continuation, on s'est déjà mis au travail. Donc à part ça, j'ai traduit tous les dialogues, j'ai réécrit tous les dialogues pour la version russe. Parce que c'est très important pour moi, pour que le joueur russe voit vraiment mon histoire, ma langue, etc. Et après, je vais participer. Ils vont en fait m'avoir comme l'écriteur, comme c'est le scénariste de deuxième partie des jeux. Donc, je vais dès le début, construire l'histoire du jeu numéro 2, quoi. Mais c'est très bien parce que, en fait, ça aide beaucoup. C'est quelque chose d'international. C'est vendu en France, c'est vendu aux États-Unis. Ça a déjà vendu aux États-Unis plus de 300 000 copies. Et les ventes globales, c'est environ 1 million. Ce qui est très, très, très bien pour un nouveau brand, une nouvelle marque. Et bah, ils ont beaucoup de confiance, les Américains même, parce que c'est publié par THQ. C'est une boîte américaine. Ils ont beaucoup de confiance dans ce monde. Et c'est déjà quelque chose de pas très évident. Parce que c'est pas basé en Amérique. L'histoire n'est pas basée en Amérique. Les héros sont pas américains. On y fantasy. C'est quelque chose de très concret, très précis, basé ailleurs. Et pourtant très intéressant pour les joueurs et pour les gens qui lisent des histoires. Pour moi, c'est un grand compliment pour l'idée. Mais bien sûr, c'est surtout le travail fantastique que l'équipe de créateurs a fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais là, je pense qu'on est seulement dans le très début d'une grande histoire, en train de transformer Maître 2033 dans ce sort de Star Wars, quelque chose. Donc on va voir, mais d'une façon moins commerciale, plus créative et plus bon, je dirais, plus un peu d'invention et moins de juste, comment dire, voilà. Donc ça doit être plus de jeux interactifs avec des lecteurs. Aussi, la façon avec laquelle je choisis des auteurs qui se publient dans cette série, l'univers de Maître 2033, c'est une façon interactive. Parce que j'ai le site en russe, 2030.ru, et les gens publient leurs histoires, fanfiction, sur le site, et des autres votent pour ou contre. Donc ils se bougent par rapport l'un à l'autre. Ceux qui parviennent à entrer dans le top 5, je les pique, je les prends et je les publie, quoi. Et c'est ça. Donc j'essaie d'aider aux gens qui rêvent de devenir des écrivains, donc des lecteurs de cette série, des lecteurs de cet univers, et se transforment en gens qui habitent et après qui dans cet univers, et après qui le créent ensemble avec moi et peuvent être publiés. Donc c'est une expérience virtuelle qui est transformée dans une expérience très réelle, quoi. Et ça peut être un beau début, parce que après avoir écrit un bouquin dans un monde qui a été inventé par quelqu'un d'autre, ils peuvent quand même aller et inventer leur propre monde, quoi, leurs propres histoires. Et j'espère que ça va aider à quelqu'un de vraiment commencer, démarrer une carrière dans auteur, dans écrivain. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est le jeu, c'est l'interactivité, et c'est la jonction des médias, des jeux, internet, littérature écrite et publiée, qui n'est pas de science-fiction maintenant, et qui est vraiment le signe de l'époque. Donc moi, je suis en train de, comment dire, explorer tout ça. Moi, je suis un petit explorateur. Voilà. Merci beaucoup.